Voilà, c'est technique. Très bien, donc on est le premier dimanche du mois et selon notre tradition, les protestants n'aiment pas trop le mot tradition, mais on en a quand même. Selon notre tradition, donc, c'est le dimanche réservé aux prédications doctrinales où on redécouvre, et peut-être pour certains, on découvre des thèmes qui sont parmi les fondements même du contenu de notre foi, c'est-à-dire ce en quoi nous croyons dur comme fer. Alors le thème de ce matin, c'est les jugements de Dieu. C'est assez vague, c'est le thème qui m'a été assigné. Et voilà, je vous propose de faire très simple. On va, pour ce thème, lire le livre de la Genèse au chapitre 18. Genèse chapitre 18, on lira les versets 16 à 26. On est là au moment où le Seigneur lui-même, venu avec des anges sous forme humaine, va révéler à Abraham qu'il aura un fils. Et donc après cet entretien, on nous dit que les trois personnes s'apprêtent à partir. Donc Genèse 18, verset 16. Puis ces hommes se remirent en route en prenant la direction de Sodome. Abraham les accompagna pour prendre congé d'eux. L'Éternel se dit alors, « Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire ? Il deviendra l'ancêtre d'une grande et puissante nation et une source de bénédiction pour tous les peuples de la terre. Car je l'ai choisi pour qu'il prescrive à ses descendants et à tous les siens après lui de faire la volonté de l'Éternel en faisant ce qui est juste et droit. Ainsi j'accomplirai les promesses que je lui ai faites. » Alors l'Éternel dit à Abraham, « De graves accusations contre Sodome et Gomorre sont montées jusqu'à moi. Leur perversité est énorme. Mais je veux y descendre pour voir si leur conduite est vraiment conforme à ce que j'entends dire. Et si ce n'est pas le cas, je le saurai. » Là-dessus, ces hommes partirent en direction de Sodome, tandis qu'Abraham continuait à se tenir en présence de l'Éternel. Il s'approcha et dit, « Vas-tu vraiment faire périr le juste avec le coupable ? Peut-être y a-t-il 50 justes dans la ville. Vas-tu aussi les faire périr ? Ne pardonneras-tu pas à la ville à cause de ces 50 justes qui sont au milieu d'elle ? Tu ne peux pas faire cela. Tu ne peux pas traiter de la même manière le juste et le coupable et faire mourir le juste avec le coupable. Ou plutôt, pardon, et faire mourir le juste avec le méchant. Toi qui juges la terre entière, n'agirais-tu pas selon le droit ? L'Éternel lui répondit, « Si je trouve à Sodome 50 justes, je pardonnerai à toute la ville à cause d'eux. » Et là, il s'ensuit donc une espèce de négociation, de marchandage entre Abraham et Dieu. Et Dieu finit par dire, ben, écoute Abraham, si je trouve au moins 10 personnes justes dans la ville, eh ben, j'épargnerai la ville tout entière. Amen. Voilà, ce passage est assez connu. Je propose de ne pas en faire un commentaire détaillé, comme j'ai l'habitude d'en faire, mais on retiendra 2-3 idées clés concernant le thème qui nous rassemble aujourd'hui. Je vais reprendre le verset 23. Il est dit, le verset 25. Tu ne peux pas faire cela. Tu ne peux pas traiter de la même manière le juste et le coupable et faire mourir le juste avec le méchant. Et cette affirmation, toi qui juges toute la terre ou toi qui juges la terre entière, n'agiras-tu pas selon le droit ? Toi qui juges toute la terre. Dieu dit à Abraham qu'il va aller voir ce qui se passe à Sodome parce qu'il a eu des échos. Et Abraham a cette formule, oui, mais toi qui es le juge de toute la terre, quand même, tu vas pas tuer le méchant et le juste, tu vas pas les traiter de la même manière. Dans cette question d'Abraham, j'aimerais relever une affirmation. C'est la première fois dans la Bible, quand on la lit depuis le début de la Genèse, qu'il est affirmé que Dieu est le juge de toute la terre. Voici la première affirmation qu'on peut retenir de ce texte. Dieu est le juge de toute la terre. Et on peut compléter ce profil de Dieu par un verset, Deutéronome au chapitre 32, le verset 4. Deutéronome au chapitre 32, verset 4, il est dit, en parlant de Dieu, « Il est comme un rocher, ses œuvres sont parfaites, tout ce qu'il fait est juste. Il est un Dieu fidèle qui ne commet pas d'injustice. C'est un Dieu juste et droit. » Donc si je mets ces deux versets bout à bout, j'en déduis que Dieu est un juge juste et droit. Il juge toute la terre. Voici une première affirmation qui est importante. Des fois, on peut penser que les choses se déroulent d'une manière aléatoire. C'est la providence. C'est le hasard. Il n'y a pas une autorité suprême qui dirige ce monde. Ce monde se débrouille tout seul et on ne peut être que témoin qu'il va, ma foi, à la dérive. Mais selon la Bible, il n'en est pas ainsi. Il y a bien quelqu'un qui observe tout ce qui s'y passe et qui juge. Il juge la terre, il juge la terre avec droiture et justesse ou justice. Si Dieu peut juger les hommes, c'est bien parce qu'il y a une loi. Nous, ici en France, par exemple, on a une loi. On a différentes lois qui vont réglementer nos relations. Le droit du travail pour les relations professionnelles, le droit civil, etc. Dieu aussi a une loi. Il a donné une loi explicite à Israël, ce qu'on appelle souvent la loi de Moïse, qu'on peut lire dans les livres de l'Ancien Testament, le Pentateuque, l'Exode, le Lévitique, le Deutéronome, etc. Mais la Bible nous dit que Dieu a mis dans le cœur de l'homme aussi une loi. Une loi que Dieu a gravée dans le cœur de chacun. Et c'est l'apôtre Paul qui en parle le mieux dans l'Épître aux Romains. Je vous invite à lire Romains chapitre 2, les versets 14 et 15. Romains chapitre 2, versets 14 et 15. En effet, lorsque les païens qui n'ont pas la loi de Moïse accomplissent naturellement ce que demande cette loi, ils se tiennent lieu de loi à eux-mêmes. Alors qu'ils n'ont pas la loi, ils n'ont pas la loi de Moïse. Ils démontrent par leur comportement que les œuvres demandées par la loi sont inscrites dans leur cœur. Leur conscience en témoigne également, ainsi que les raisonnements par lesquels ils s'accusent ou s'excusent les uns les autres. L'apôtre Paul présente souvent les choses d'une manière un peu compliquée, mais l'idée est assez simple. C'est que nous avons en chacun de nous comme une loi qui agit dans notre conscience et qui nous permet de juger des choses que nous faisons ou que nous voyons faire. Parce que dans notre âme et conscience, on s'est dit, ah mais telle chose c'est bien, telle chose c'est quand même pas bien, ça c'est pas bien ce qu'il a fait. La Bible là nous dit que Dieu a mis dans le cœur et dans la conscience de l'homme une loi qui vient de Dieu. Et Dieu peut donc juger les êtres humains sur la base même de cette loi. Ça dit que Dieu peut prendre la loi que toi-même tu as. Si tu estimes, toi, ce qui est bien et ce qui est mauvais, mais est-ce que toi, tu le fais? Dieu donc juge la terre selon sa loi. Cette loi, il l'a mise dans nos cœurs et dans nos consciences. Et on voit là, et c'est ce que Dieu va faire dans le cas que nous sommes en train de lire, dans le cas de Sodome et Gomorre, que Dieu va juger. C'est-à-dire qu'il va donner une appréciation. Il va sanctionner. Il nous a dit dans ce texte que le péché de Sodome et de Gomorre est remonté à Dieu, qu'il est énorme, que Dieu ne peut plus le supporter, qu'il va aller voir ce qui s'y passe. La suite du texte nous montre que Dieu va punir le péché de Sodome et de Gomorre en y déversant une pluie de soufre et de feu. Et nous voyons là un Dieu qui juge durement et sévèrement. Et il y a là, dans l'Ancien Testament surtout, mais pas que, plusieurs épisodes comme ça où on voit Dieu appliquer ses jugements et sa justice avec colère, avec fureur. On a par exemple des épisodes, je ne vais pas tous les citer, on ne va pas chercher les références, il y en aurait tellement. On a des épisodes où Dieu va semer en Israël la famine, la sécheresse, des attaques de sauterelles. On a des épisodes où Dieu va simplement semer la mort par la guerre. On a cet épisode fameux de la destruction du temple et du peuple qui est envoyé en exil. Donc Dieu ne va pas que punir les autres peuples, mais il va aussi punir le peuple à qui il a révélé sa loi par les textes de la loi de Moïse. Dieu montre là aussi qu'il est impartial et juste. On voit dans la Bible que Dieu punit les actions, les mauvaises actions des hommes, mais il punit aussi les mauvaises paroles. Combien de faux prophètes ont annoncé des paroles fausses de la part de Dieu, ou en prétendant que c'était fait de la part de Dieu, et ont été châtiés. Dieu, on le voit dans le fameux épisode du déluge, va aussi sanctionner les pensées, parce qu'il dira, avant de faire tomber le déluge, ces hommes ne conçoivent dans leur cœur que du mal. Ils font le mal, ils disent le mal, ils pensent, ils conçoivent le mal. Dieu va juger tout cela et le juger sévèrement. Dieu punit le péché. Dieu exerce son jugement terrestre. Et j'aimerais qu'on lise en Ézéchiel chapitre 5. Ézéchiel au chapitre 5, les versets 11 à 13, Dieu nous dit cette parole. Donc là, on est aussi à une époque où Dieu exerce son jugement sur le peuple. On est à l'époque de l'exil. C'est pourquoi aussi vrai que je suis vivant, déclare le Seigneur l'Éternel, puisque vous avez souillé mon sanctuaire par toutes vos idoles répugnantes et abominables, je passerai le rasoir sur vous sans un regard de pitié et j'agirai sans ménagement. Un tiers des habitants de la ville mourra de la peste ou périra de faim dans vos murs. Un autre tiers tombera frappé par l'épée aux alentours de la ville, et le dernier tiers, je le disperserai à tout vent, et je le poursuivrai avec l'épée. Je donnerai libre cours à ma colère, et je ferai peser mon courroux sur eux, je leur ferai payer leur trahison. Et quand j'aurai donné libre cours à ma colère, ils reconnaîtront que moi, l'Éternel, j'ai parlé, parce que je ne transige pas avec leur infidélité. La justice de Dieu, les jugements durs de Dieu sont là aussi pour nous révéler la nature de Dieu. Dieu là nous dit dans ce texte, quand il aura exercé tous ses jugements, eh bien, son peuple comprendra qu'il ne transige absolument pas avec leur infidélité. Donc les jugements de Dieu sont là aussi pour nous enseigner et nous conduire à la repentance, à changer de conduite et de comportement. Je sais que en bon chrétien évangélique surtout, on aime bien prêcher, on fait bien l'amour de Dieu. Et il faut sans cesse rappeler que Dieu est amour. C'est pas nous qui l'avons inventé. Dieu se présente à nous comme le Dieu d'amour. De temps en temps, il est bon de nuancer, d'équilibrer et de se dire aussi que Dieu est justice et que Dieu est jugement. Et que ces jugements ne sont pas juste là pour nous effrayer, mais que de temps en temps, il les applique. Et il les applique avec force. Il ne retient pas sa main. Vous avez lu ce texte hein, d'Ézéchiel. Un tiers, un tiers, un tiers. Personne n'y échappera. Il n'y aura pas d'issue. Dieu est très patient. Il semblerait que des fois sa patience a des limites. Et quand elle atteint sa limite, ça peut faire mal. Voyez, frères et sœurs, c'est vrai qu'il faut faire attention quand on présente Dieu comme ça, comme une espèce de père fouettard qui sort son fouet. Mais ma foi, c'est biblique. Et cette pensée de foi pour le croyant, elle est aussi salutaire. Oui, elle est très bonne des fois. Bien d'hommes, de femmes ont évité de donner libre cours au mal qu'ils avaient en eux, en pensant au jugement de Dieu. Peut-être que les pères de famille ont évité de quitter leur famille en pensant au jugement de Dieu. Peut-être que des personnes, des criminels en puissance, se sont retenus en redoutant l'heure de la colère de Dieu. Ce Dieu que nous voyons là, qui s'exprime de manière aussi dure, c'est aussi le Dieu d'amour. Et s'il le fait ainsi, c'est pour que tu changes. C'est pour que je change. Et que tu réfléchisses. Qu'on ne considère pas Dieu comme un bisounours, si tendre, comme l'enfant Jésus qu'on voit dans la crèche si souvent représenté. Il peut être aussi un Dieu de colère, qui peut manier son épée et qui frappe. J'aimerais que cette pensée aussi nous aide en cette semaine, dans les situations qu'on peut vivre, des fois où on aimerait spontanément laisser libre cours peut-être à nos pulsions. Oui, notre Dieu est aussi un Dieu de colère et de jugement. Voici donc la première affirmation. La deuxième, c'est, je dirais, ce que Abraham lui-même dit, qu'il commence à dire. Il dit, oui, mais tu es le Dieu qui juge, tu juges avec droiture et justice, mais quand même, tu ne vas pas traiter le méchant et le juste de la même manière. Tu ne peux pas faire ça quand même. Et ça, c'est bien quelque chose que nous constatons. Et peut-être la personne dans la Bible qui a réfléchi à toute la, je dirais, la condition de l'homme et qui a observé tout ça et qui le relate dans la parole de Dieu, il me semble que c'est l'Ecclésiaste. L'Ecclésiaste nous dit au chapitre 8, ne cherchez pas si vous voulez, je vous lis un ou deux versets. Ecclésiaste chapitre 8, « J'ai vu des méchants être enterrés. » Au verset 10, « Les gens allaient et venaient du sanctuaire et ils les louaient. Ils les louaient dans la ville pour ce qu'ils avaient fait. » C'est quand même incroyable. Le méchant est enterré et les gens vont lui rendre hommage. Il va plus loin au verset 14, toujours en Ecclésiaste chapitre 8. Il y a une autre chose vaine qui se passe sur la terre. Certains justes subissent le sort que méritent les agissements des méchants. Et certains méchants ont le sort que méritent les œuvres des justes. C'est pas logique. C'est pas juste. C'est bien ce qu'on est obligé de constater quand on observe le monde. Quand on entend qu'il y a des chrétiens qui se font décapiter ou d'autres, on se dit, mais qu'est-ce qu'ils ont fait pour mériter ça? Et pourquoi Dieu, là, n'exerce pas, là, dans l'immédiat, sa justice pour les épargner, eux, et punir les méchants? Il faut se dire d'abord une chose, fait que Dieu accepte qu'on pousse ce cri à lui. Pourquoi ? Le livre des Psaumes, le livre de l'Ecclésiaste, et plusieurs livres dans la Bible, le livre de Job, nous montrent que c'est dans la parole de Dieu, n'est-ce pas ? Dieu laisse à l'homme l'expression de sa souffrance, du sentiment d'injustice qu'il observe. Et c'est ça la deuxième affirmation que je voudrais nous laisser en ce matin. La première, c'est que Dieu est un juge juste et redoutable dans ses jugements. La deuxième affirmation, c'est que nous, pauvres êtres humains, pécheurs, on ne comprend pas toujours sa justice. Voici quelque chose aussi que nous pouvons dire. Nous ne comprenons pas toujours la justice de Dieu appliquée là, de manière historique, de manière terrestre. Mais une fois qu'on dit ça, une fois qu'on fait ce constat, attention à ne pas tomber dans des pièges. Le non-croyant observe le monde et se dit « Waouh, il y a tellement de mal, eh bien, c'est probablement que Dieu n'existe pas, parce que s'il existait, il n'aurait pas laissé faire tout ce déchaînement de mal. » Non. Le croyant, le chrétien, n'est pas invité à maudire Dieu, comme il est dit dans le livre de Job, parce qu'il est témoin des souffrances et des injustices. Deuxième piège dans lequel il ne faut surtout pas tomber, c'est de penser donc que toutes les souffrances qu'on peut observer pourraient être le fait d'un jugement de Dieu. On pourrait se dire, ben, ces chrétiens qui se sont fait égorger ou tous ceux qui subissent les catastrophes, ben, ils l'ont probablement bien cherché, ils l'ont bien mérité. Non, la Bible nous dit que non. Et on a un livre entier dans la Bible qui est consacré à ce thème, mais c'est le livre de Job. Tout au long du livre, il souffre d'une manière incroyable, sans que la Bible nous dise qu'il ait commis la faute, la moindre faute. Troisième piège qu'il faut éviter, quand on observe ce mal qui se déchaîne autour de nous, et qu'on croit que Dieu est un Dieu qui juge, on peut être tenté de se dire que finalement, avec tout ce mal, ben Dieu il passe son temps à juger. Sans oublier que, en fait, on baigne tous dans la grâce de Dieu. La grâce de Dieu est beaucoup plus énorme que les jugements, même les plus sévères de Dieu. Parce que cette grâce de Dieu, on y est tellement habitué qu'on ne la voit plus. Et bien souvent, Dieu va exercer ses jugements en nous privant de sa grâce. Attention, c'est très sensible hein, ce que j'ai dit. Comment ? Je pense à la sécheresse. On finit par ne pas réaliser que la pluie nous vient de Dieu. Je pense à la mort. On finit par ne pas réaliser que c'est Dieu qui nous donne la vie. Je pense au soleil, très important pour nous. Mais ça a l'air gratuit. C'est là, tous les jours, il y a le soleil. Mais le soleil, c'est une grâce de Dieu. Les grâces de Dieu sont bien plus énormes, bien plus nombreuses que les jugements de Dieu, les jugements durs de Dieu. Vous voyez ? Donc attention à ne pas non plus sous-peser et se dire que ah ben finalement Dieu dit donc il est quand même dur. Non, il est plein de grâce et sa grâce abonde dans nos vies. Et le dernier piège, et non des moindres, c'est de considérer les jugements de Dieu, les jugements terrestres, et de se penser meilleur que ceux qui les subissent. Et c'est vraiment ce sur quoi Jésus va le plus insister. J'aimerais qu'on lise ces versets-là aussi qui sont généralement très connus en Luc 13. Versets 1 à 3, où des personnes vont aborder Jésus en parlant d'autres personnes qui ont été tuées pendant qu'ils offraient des sacrifices. Luc 13, versets 1 à 3. À cette époque, survinrent quelques personnes qui informèrent Jésus que Pilate avait fait tuer des Galiléens pendant qu'ils offraient des sacrifices. Jésus leur dit : Pensez-vous que ces Galiléens ont subi un sort si cruel parce qu'ils étaient de plus grands pécheurs que tous leurs compatriotes? Non, je vous le dis. Mais vous, si vous ne changez pas, vous périrez tous, vous aussi. On a vite fait de pointer du doigt tous ceux qui subissent les choses, mais Jésus nous ramène à nous. Tu n'es pas mieux qu'eux. Et si tu ne changes pas, tu subiras le même sort tôt ou tard. Nous ne sommes pas meilleurs que tous ceux qui ont pu être punis par la juste colère de Dieu. Ces jugements que Dieu applique à travers l'histoire de l'humanité sont comme des anticipations, sont comme des petits épisodes pour nous préparer à ce que la Bible appelle le jour du jugement ou le jour communément connu sous le nom du jugement dernier. C'est vers ce jour-là que tendent tous les jugements que Dieu applique dans l'histoire humaine. Et la Bible nous en parle en 1 Corinthiens chapitre 3. 1 Corinthiens au chapitre 3. À partir du verset 13, l'apôtre Paul dit: mais le jour du jugement montrera clairement la qualité de l'œuvre de chacun et la rendra évidente. En effet, ce jour sera comme un feu qui éprouvera l'œuvre de chacun pour en révéler la nature. Le jour du jugement, appelé aussi tout simplement le jour. Le jour du jugement, c'est un jour précis que Dieu a fixé dans sa grande sagesse. Mais le jour du jugement, c'est aussi un jour par opposition à ce temps de ténèbres dans lequel nous vivons. Et la Bible là nous dit que à chaque fois que nous voyons s'exercer ces catastrophes et que nous pensons au jugement de Dieu qui s'exerce là de manière historique dans l'histoire de l'homme, nous sommes invités à penser au jugement dernier, au jour du dernier jugement. Ce jour-là où chaque homme, chaque femme, chaque personne rendra compte de ses œuvres à Dieu. Ces jours de jugement de Dieu sont comme des petits jours de l'éternel, le jour du dernier jugement. Et c'est bien ce jour-là que la Bible nous invite à redouter le plus. Ce jour du jugement dernier sera le jour où tout le monde comparaîtra. Bien souvent, les chrétiens pensent que ce jour-là, ils seront dispensés. Du peu que j'en ai étudié, peut-être le pasteur me corrigera si jamais je me trompe, parce que là j'affirme des choses graves. Ma foi, on ne sera pas exempté de ce jour-là. On aura aussi à rendre compte de nos œuvres. Ce jour est redoutable aussi pour les chrétiens. On fera là, devant notre Seigneur, l'exposé de tout ce qu'on aura fait, dit ou pensé. Et la Bible nous invite à redouter ce jour du jugement dernier. Cependant, la Bible affirme avec encore plus de force, et c'est ça notre espérance, ma foi, je vois déjà les sourires, c'est qu'en ce jour-là, le chrétien, celui qui a mis sa foi en Jésus-Christ, qui a observé ce monde mauvais, qui a regardé Dieu comme un juge redoutable, mais qui s'est tourné vers la croix de Jésus, celui-là, au jour dernier, au jour du jugement dernier, il ne sera pas condamné. Ça ne veut pas dire que Dieu ne jugera pas ses actions. Mais la sanction qu'auraient mérité ses actions a déjà été payée à la croix par Jésus-Christ. Et l'apôtre Paul, de s'exclamer par ce cri qu'on ne se lassera jamais de prêcher, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et c'est vraiment pour ça que nous pouvons prendre du recul, prendre de la hauteur par rapport à toutes ces catastrophes, par rapport à tous ces jugements de Dieu. Parce que nous savons que le jour du jugement dernier, nous avons un avocat. Il sera le juge d'ailleurs, mais il sera aussi notre avocat. C'est celui qui mettra sur nous le cachet, une image qu'aimait bien Jean-Louis, un de nos anciens prédicateurs. On aura comme un cachet pour dire que, tiens, celui-ci, cet homme, cette femme, ah ben il a déjà payé sa peine. Jésus a déjà payé sa peine. Il est gracié. Il ne sera pas condamné. J'aimerais qu'on lise pour cela, pour nous encourager, quelques versets en Romains chapitre 8, les versets 31 à 34. Romains 8. Que dire de plus? Verset 31. Si Dieu est pour nous, qui se lèvera contre nous? Lui qui n'a même pas épargné son propre fils, mais l'a livré pour nous tous. Comment ne nous donnerait-il pas aussi tout avec lui? Qui accusera encore les élus de Dieu? Dieu lui-même les déclare. Dieu lui-même les déclare? Non coupable ou juste. Dieu lui-même les déclare justes. Qui les condamnera? Le Christ est mort bien plus. Il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Et il intercède pour nous. Amen. Amen. J'aurais aimé là finir sur ce texte et nous laisser sur cette note d'espérance et dire que certes notre Dieu est un Dieu de colère, un Dieu de justice, un Dieu de jugement, mais c'est aussi un Dieu de grâce qui nous offre le moyen d'être épargné du jugement dernier. Mais j'aimerais pas finir, je le fais volontairement, sur une note joyeuse. Je sais que c'est ce qu'on fait d'habitude, j'aimerais vous attrister. J'aimerais vous faire passer une semaine pleine de tristesse. Évangile de Jean, chapitre 12. Et ça sera le mot de la fin. Évangile de Jean, chapitre 12. Voyez, l'évangile que nous avons reçu, l'évangile que nous prêchons, c'est Jésus-Christ lui-même que nous vous présentons. C'est Jésus qui se présente à nous. Et donc la Bible nous dit que devant la prédication de Jésus-Christ, nous sommes invités à exercer notre jugement. On a parlé jusque-là du jugement de Dieu. Et la Bible nous invite à faire attention à notre jugement. Entendre la proclamation de l'évangile, entendre que le seul moyen d'être sauvé, c'est Jésus-Christ, t'invite à te positionner. Et se positionner, c'est donner un jugement, n'est-ce pas? C'est avoir une opinion, c'est faire un choix, c'est trancher. Et c'est sur ça que j'aimerais conclure en disant que Jésus nous dit que c'est à nous de juger. Dieu jugera, Dieu juge déjà, il jugera. Mais il nous est donné aujourd'hui de juger par nous-mêmes. Qu'est-ce qu'il en est de l'évangile? Là, ce n'est pas Dieu qui juge. C'est à toi de juger qu'est-ce qu'il en est. C'est à toi de juger. Et Jésus en parle. Jean chapitre 12, verset 48. Je vais lire à partir du verset 44. Jésus déclara à haute voix, « Si quelqu'un me fait confiance, ce n'est pas en moi seulement qu'il croit, mais encore en celui qui m'a envoyé. Qui me voit, voit aussi celui qui m'a envoyé. C'est pour être la lumière que je suis venu dans le monde, afin que tout homme qui croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Si quelqu'un entend ce que je dis, mais ne le met pas en pratique, ce n'est pas moi qui le jugerai. Ce n'est pas pour juger le monde que je suis venu, c'est pour le sauver. Et cependant, et c'est ce verset 48 qui me frappe, celui donc qui me méprise et qui ne tient pas compte de mes paroles a déjà son juge. Il a déjà son juge. C'est cette parole même que j'ai prononcée, elle le jugera au dernier jour. Celui qui méprise ma parole et qui ne tient pas compte de ce que j'ai dit, il prononce d'une certaine manière un jugement. ce jugement qu'il a prononcé se retournera contre lui-même le jour du jugement dernier. C'est à nous de juger aujourd'hui ce qui se passera pour nous le jour du jugement dernier. Et j'aimerais que cette parole, quelque part, nous attriste un petit peu. Est-ce que je mets vraiment ma foi en Jésus-Christ? Quel est mon jugement dessus? Celui qui ne tient pas compte de mes paroles a déjà son juge, puisqu'il a jugé que ses paroles étaient vaines. Il a prononcé sur mes paroles le jugement. J'ai envie de dire, tant pis pour lui. Dieu merci, Jésus dit pas tant pis pour lui quand même. Dans sa grâce, Jésus s'offre encore à nous en ce matin. Vas-tu en ce matin juger bon de te tourner vers Jésus-Christ? Amen. Amen.